Père, ta parole nous est offerte. Cependant aussi, elle nous résiste parfois. Elle n'est pas comme nous voulions. Elle nous surprend. Père, ta parole est forte, mais elle peut être tellement faible quand nous mettons d'autres priorités à la place de ta parole. Père, ta parole est une lampe à nos pieds, justement à nos pieds, au fur et à mesure que nous marchons, que nous nous laissons conduire par elle. Nous nous soumettons, Père, à ta parole que tu as donnée à Israël, ta parole faite chair en Jésus-Christ. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Nous écoutons donc dans Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 27. Je demande à Claude de venir.
Oui, c'est pour l'enregistrement.
Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait :
Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?
Jésus lui dit :
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère.
L'homme lui dit :
Maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse.
Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit :
Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.
Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples :
Qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète :
Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux :
Alors, qui peut être sauvé ?
Les regardant, Jésus dit :
Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Nous avons été habitués par beaucoup de prédications à l'idée que la grâce est incompatible avec la loi. Or voilà que Jésus rappelle tout simplement les commandements à cet homme qui cherche la vie éternelle. Ça veut donc bien dire que la loi est un chemin de vie éternelle. Bien d'autres textes des évangiles disent cela. Il ne faut donc pas absolutiser les raisonnements qu'on trouve dans les épîtres de Paul, notamment aux Romains que nous avons étudiés depuis septembre, où la loi est opposée à la grâce. C'est vrai aussi. Mais ces raisonnements servent à démontrer, à nous convaincre que le salut est en Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Eh bien, Jésus, c'est un juif qui a été donc circoncis. Ça veut dire qu'il a été soumis à la loi. Il a été aussi soumis aux prophètes. Parce que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, d'après l'Évangile. Et Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. D'ailleurs, si on y regarde de près, même dans l'Épître aux Romains, même dans les textes où Paul oppose la grâce et la loi, il y a des phrases très fortes concernant la loi. Je cite Romains 7, 14, « La loi est spirituelle ». Romains 3, 31. Loin d'enlever toute valeur à la loi, nous confirmons la loi. Romains 7, 25. Je suis assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu. Voilà donc Paul lui-même fait l'éloge de la loi. Et si Jésus s'était distancé de la loi, il ne serait tout simplement pas le Messie. Parce que le Messie est annoncé par la loi et par les prophètes. Laissons-nous donc déstabiliser par ce texte de l'Évangile dans nos fausses certitudes, si nous avions cette certitude que la loi n'est plus nécessaire. Non, Jésus l'envisage comme un chemin de vie éternelle. Et il cite les commandements, quelques-uns. Donc, un chemin, c'est pratiquer les commandements, ça veut dire marcher. Marcher, le chemin, c'est quelque chose qui guide nos pas, qui fait qu'on va comme ci, comme ça, dans ce sens ou dans ce sens. Les commandements guident nos pas, nos actions dans la vie quotidienne, nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne sont pas facultatifs. Et la vie éternelle, c'est donc faire, vraiment faire, ce que Dieu veut. La vie éternelle n'est pas une assurance vie qui serait débloquée à notre mort. Elle est définie ainsi dans Jean 17 par Jésus. Je l'ai déjà cité plusieurs fois, ce verset 3 de Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, la vie éternelle n'a aucun rapport avec le temps ou avec le jour de notre enterrement. Elle consiste à connaître le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Et donc, connaître dans la Bible, ça a toujours le sens de pratiquer les commandements. Connaître Dieu, c'est pratiquer les commandements qu'il a donnés à Israël. Jésus rend cet homme donc attentif à la loi. Mais la première réponse que Jésus lui donne, c'est par rapport à la façon dont cet homme l'a salué. Cet homme l'a salué en lui disant « Bon maître ». Et Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Jésus, notez bien, ne nie pas qu'il est bon, mais il veut, par sa question, faire réfléchir l'homme à cet adjectif qu'il a ajouté dans sa salutation. Bon. La bonté de Jésus, d'où vient-elle? D'où? Il n'y en a qu'un qui en a de la bonté, qui n'est que bonté, c'est Dieu. Donc si Jésus est bon, c'est qu'il est un avec son Père, avec celui qui l'a envoyé. Il vit cette bonté au milieu de nous. Dieu seul est bon, et si Jésus est bon, c'est que quelque chose, un événement a eu lieu. Dieu n'est plus seulement là-haut, il est aussi là, sur la terre, puisque Jésus est bon au milieu de nous. Le Père est aux cieux et le Fils est venu sur terre et les deux sont un. Alors c'est vrai que les commandements de Dieu peuvent nous cacher cette bonté. Juste dans les versets précédents, dans le même chapitre 10 de Marc, on a une réponse de Jésus concernant le divorce. Ah oui, mais Moïse, il a ordonné de donner une lettre de divorce si on veut divorcer. Alors Jésus répond, oui, c'est une loi qui est donnée par Moïse, c'est vrai. Mais pourquoi l'a-t-il donnée? À cause de la dureté de votre cœur. Il faut mettre une certaine limite à la dureté du cœur. Et donc la loi elle-même tient compte de la dureté du cœur humain qui n'est pas bon. Donc on ne peut pas se contenter de la loi, parce qu'elle-même tient compte de la dureté du cœur humain, et parfois c'est notre tendance, moi je le constate pour moi-même, de m'endurcir, mais en ayant très bonne conscience, parce que c'est la loi. Oui, mais la loi, Jésus remonte à la source, il n'y a que bonté, il n'y a pas de dureté. Il n'y a que bonté dans la source qui est Dieu lui-même. Personne n'est bon si ce n'est un, le Dieu. Je traduis littéralement le verset 18. Personne n'est bon si ce n'est un, le Dieu. C'était la première réponse de Jésus à cet homme en recherche. Dans sa dernière réponse, Jésus réutilise ce mot « un ». C'est pas au masculin, mais au neutre. « Un te manque, va, va. Ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres. » Verset 21. « Un te manque. » Il y a un Dieu, il y a un qui te manque. Une chose à faire, un commandement. Et c'est le commandement un, celui que Dieu fait lui-même. Ah, et alors c'est quoi l'action que Dieu fait, le commandement que Dieu fait? Eh bien, cet homme a ce commandement, cette action de Dieu, il l'a sous les yeux. En regardant Jésus, il a devant lui un homme qui est le Fils de Dieu, venu sur terre, un Juif de chair et de sang, et Jésus a tout quitté pour pouvoir tout nous donner. Plusieurs textes du Nouveau Testament soulignent cela. Oh, ce ne sont pas des richesses périssables comme tout ce qu'il y a sur terre, mais des richesses impérissables, éternelles, qu'il a quittées, qui sont donc bien plus précieuses que celles que nous connaissons. Il a tout quitté pour tout partager avec nous. Je rappelle seulement un verset dans le Nouveau Testament, mais on pourra en citer d'autres. C'est 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. La pauvreté de Jésus signifie pour nous richesse. Et sans cette pauvreté de Jésus, nous n'aurions rien de ce qui appartient à Dieu. Si cet homme riche avait tout vendu et donné l'argent aux pauvres, cela aurait constitué pour quelques pauvres une richesse considérable. La pauvreté de Jésus n'est pas seulement une richesse pour quelques personnes, mais pour tous. Ce que nous recevons dans sa pauvreté, c'est la vie éternelle, aujourd'hui même. Le royaume de Dieu en entier. Jésus invite cet homme à faire comme lui l'action une du Dieu un. Mais ce commandement un de Jésus surprend. Cet homme est surpris. Jusque-là, il ne portait certainement pas d'intérêt particulier à ses richesses, jusqu'au moment où Jésus lui dit de les quitter. Il avait dû en hériter une partie de ses parents, ses richesses faisaient partie de sa vie tout naturellement. Il avait peut-être travaillé dur pour les avoir. Et voilà que devant cette parole de Jésus, il découvre que cette richesse est très forte sur lui-même. Elle a une emprise sur lui. Et l'idole la plus difficile à vaincre en nous-mêmes, c'est celle qui est invisible, même à nous-mêmes. C'est seulement Jésus qui la révèle. Jusqu'à présent, cette richesse, elle était comme transparente. Mais elle était là. Et elle est tout d'un coup très forte quand Jésus parle à cet homme, qui a pourtant toujours respecté les commandements de Dieu. Il en est ainsi pour nous aussi. Quand nous nous approchons de Jésus, il se peut que sa parole nous dise quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Qui nous montre quelque chose dont nous ne pouvons pas nous-mêmes nous débarrasser dans notre vie. Et cette chose ne devient visible que parce que Jésus nous parle. Tout d'un coup, cette chose se révèle puissante au point de nous empêcher d'obéir au commandement de Jésus, plus forte que notre amour pour Jésus. L'homme s'en est allé. Il s'en est allé, nous dit le texte. Et Jésus ne lui a pas couru après. Sa parole n'est pas dite au hasard, elle est à prendre ou à laisser. Seul Jésus peut révéler le problème de chaque être humain. Nous voyons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul, par rapport aux richesses de ce monde, Philippiens 4, verset 12, a appris à être détaché. Il dit dans Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans la gêne, dans le besoin. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris en toutes circonstances et de toutes les manières, comment il insiste, en toutes circonstances et de toutes les manières, à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Il a renoncé à tout. Mais parfois il était riche, parfois il était pauvre, parfois il avait faim, parfois il avait une bonne table devant lui. Il a renoncé à la vie conjugale, il a renoncé à la santé, parce qu'il a beaucoup été persécuté. Il a renoncé à beaucoup, beaucoup de choses, à la réputation aussi. C'est important hein, pour vivre d'être entouré de gens qui vous estiment. Ben, lui, il n'était pas toujours estimé. Mais en Christ, il a pu vivre avec la chose ou avec l'absence de cette chose qui est nécessaire fondamentalement à la vie. Le lien entre richesse et incrédulité est souligné après par Jésus dans un dialogue avec ses disciples. Et ne croyons pas que ça ne nous concerne pas, l'Église du XXIe siècle, parce que si on est un peu ouvert à la vie de l'Église universelle, aujourd'hui, que constate-t-on? Dans les pays pauvres, que nous disons pauvres, hein, pays pauvres, il y a une Église forte, une Église nombreuse, une Église croyante. Et dans les pays riches, Église moribonde. Et je me surprends moi-même à penser, oh, ben, c'est normal, les pauvres, ils n'ont que cette espérance-là, alors c'est normal, ils se tournent vers Dieu. Mais vous voyez cette pensée qui me vient, je la combats, je sais qu'elle me condamne, cette pensée-là. Parce que l'Église des pays pauvres nous fera honte au jour du jugement. Eux n'avaient rien, mais combien Dieu est riche avec eux. Des témoignages de guérison, de miracles, de l'avancée du royaume de Dieu dans ces pays. Nous avons des livres, des quantités de livres qui sont publiés en ce moment
Combien qui viennent de ces pays-là, de ces pays pauvres, et combien de livres viennent d'ici, de l'Europe, pour dire combien Dieu agit, combien Dieu guérit, combien Dieu bénit, sauve, délivre.
Mère Teresa, qui a vécu en Inde, elle a un peu parcouru l'Europe, elle a dit, mais en Europe, j'ai trouvé une solitude, une misère morale que même en Inde, je n'ai pas vue chez les gens qui meurent dans la rue. L'Église n'a pas besoin d'argent pour être riche. C'est Jésus, sa richesse. Jésus ne dit pas à cet homme de lui apporter l'argent de la vente. C'est ce que l'Église a parfois demandé à ses fidèles, ce que des groupes sectaires exigent de leurs adeptes. Mais Jésus n'est pas intéressé par l'argent de cet homme. Il dit à cet homme, « Va, va, quitte-moi, vends ce que tu as, donne aux pauvres le produit de cette vente, aux pauvres. Après, tu viendras vers moi et tu me suivras. » Jésus n'a pas demandé à cet homme de le suivre tout de suite. Il y a d'autres personnes qui l'a retardé, il leur a dit non, non, il voulait le suivre, il a dit non, retourne chez toi. Parce que pourquoi Jésus n'autorisait pas immédiatement de le suivre? Parce qu'il ne veut pas être une idole de plus dans notre cœur. Il ne veut pas qu'on l'ajoute à nos richesses, à nos mérites personnels. Il est le Dieu vivant. Et entre une idole qui nous fait fonctionner et le Dieu vivant, on ne peut pas mélanger ça. On ne peut pas ajouter le Dieu vivant avec les idoles. C'est tout le thème de la Bible de A à Z. Israël a ajouté le Dieu aux idoles. Non, ça ne marche pas ça. Dieu ne veut pas vivre avec des idoles mortes, il est le Dieu vivant. Les disciples sont effarés par cet enseignement de Jésus. Et parce qu'il leur répète, verset 23, qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Alors, les voyant très étonnés, il le redit, verset 25, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors là, les disciples sont au bout de leur stupéfaction, et c'est là, quand on est au bout de notre surprise, et complètement médusé par ce que Jésus dit, qu'on pose la vraie question. Alors, qui peut être sauvé? Bon, les disciples ont tout quitté, mais je vous signale que Pierre avait encore une maison à Capernaum. Ceux qui étaient avec moi en Israël ont visité cette maison. Mais la bonne question, c'est ça. Qui peut être sauvé? Et la phrase clé vient là, maintenant. Jésus répond aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et je fais le rapprochement avec ce que l'ange Gabriel dit à Marie, Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Quand Jésus naît, cette phrase est prononcée. Ça veut dire que sa naissance, sa venue dans le monde, elle change les données que nous avons pour vivre selon les commandements de Dieu. D'ailleurs, juste avant sa mort, devant Pilate, Jésus rappelle pourquoi il est né. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous voyez là, la solution est donnée. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, on devient capable d'écouter son commandement. Ça, c'est dans Jean 18, 37. Parce que maintenant que Jésus est là, qu'il va être tué, qu'il va être élevé, dit l'Évangile, à la droite du Père, et qu'il est donc vivant au milieu de nous, en même temps, nous avons des possibilités que nous n'avions pas avant. Ce qui est impossible à nous, maintenant c'est possible parce que Dieu a uni les possibilités qui sont les siennes. Il les a unies avec les nôtres. Alors vous me direz pourquoi cet homme est-il parti alors tout triste ? Ben, il faut retourner au verset 21. Jésus, ayant regardé cet homme, l'a aimé. C'est rare qu'on nous dise que Jésus regarde et aime. Je vais peut-être dire quelque chose de choquant. C'est pour ça que l'homme est parti. Quand Jésus nous regarde, ce n'est pas un regard de séduction qui exerce une emprise sur la personne regardée. C'est un regard qui donne la possibilité de partir. C'est un regard qui aime sans prendre par la force. Jésus n'exerce pas un pouvoir dans son amour. Cet amour, au lieu d'enlever notre liberté, de la confisquer, elle nous la donne. L'amour de Dieu fonde notre véritable liberté. Elle réveille en nous une liberté que nous n'avions pas connue avant. Voilà pourquoi Jésus dit à cet homme de s'en aller d'abord. Pas de le suivre, de s'en aller. Après, il sera libre de suivre ou non Jésus. J'avais dit au début de cette prédication que la pauvreté de Jésus nous enrichit, et je dis maintenant que Jésus est cet homme vraiment libre, sa liberté nous libère. Et tout cela se tient. Pour qu'il y ait amour, il faut liberté. Pour qu'il y ait amour, il faut aussi pauvreté, accepter pour soi-même. Je ne peux pas obliger l'autre. Je dois accepter pour moi-même une non-puissance, un non-pouvoir. Laisser la place à l'autre, c'est une façon d'être pauvre. La Bible ne glorifie pas la pauvreté pour elle-même, mais parce qu'elle donne la place aux autres. Nous ne savons pas ce que cet homme est devenu, nous n'avons même pas à le savoir. Ça suffit de savoir que Jésus a ouvert devant cet homme un chemin qu'il ne connaissait pas, c'est un chemin de liberté. Le regard de Jésus est encore souligné deux fois après, au verset 23, quand cet homme est parti, Jésus a regardé les gens autour de lui. Puis quand ses disciples l'ont interrogé, il a regardé ses disciples. C'est important de regarder quand on donne une parole qui peut être interprétée de façon dure et inhumaine, et c'était le cas. Alors Jésus a regardé la foule, il a regardé ses disciples. Et dans ce regard, il y a de la bienveillance et non pas de la dureté, la bonté. Toutes les paroles de Jésus, son regard sur nous, son amour, viennent de la croix. Tout ce que j'ai évoqué, l'idole invisible qui se montre tout à coup, qui montre son emprise sur nous, quand Jésus nous parle, quand il nous regarde, quand il nous aime, est-ce que ce n'est pas à l'heure de la crucifixion que toutes les idoles
ont tout d'un coup montré leur puissance, ont accédé à la visibilité. Les hommes pieux qui ont condamné Jésus se sont servis des commandements pour le condamner. Leur religion est une idole. Judas, pourquoi a-t-il trahi? Pour de l'argent. Peut-être pour d'autres raisons, mais l'argent faisait partie de la trahison. L'argent est une idole. Etc. On pourrait multiplier la liste. Toutes les idoles deviennent visibles devant la croix. On ne les voyait pas jusqu'à présent, mais là, elles se manifestent. Et elles montrent leur pouvoir du fait qu'on met Jésus sur la croix. Et Jésus, lui, montre la richesse de l'amour du Père et la liberté que le Père nous donne par rapport à toutes ces idoles. J'ai évoqué dans cette prédication la pauvreté, laisser la place à l'autre. Où est-ce que ça s'exprime le mieux? À la croix. Jésus nous a laissé toute la place pour faire ce que nous voulions. Il nous a laissé toute notre liberté. Dieu nous a donné liberté totale de faire ce que nous voulions à son Fils. Nous avons fait tout ce que nous avons voulu. Ça, c'est dit dans un texte des Actes des Apôtres. Nous avons cloué à la croix celui qui est le Seigneur. Nos idoles sont apparues au grand jour. Notre liberté s'est exercée. Et c'est par cet acte que nous avons posé que Dieu lui pose un autre acte en même temps. Il nous transmet sa bonté. Personne n'est bon si ce n'est le Dieu un, et celui qui fait un avec lui par la mort et la résurrection de son Fils. Amen.